Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre concentré hebdomadaire d'Actu Basket. Chaque semaine, moi Benjamin, je vous propose de faire le tour de l'actualité de la NBA essentiellement et du monde de la balle orange en général. Cette semaine, encore un programme assez chargé, beaucoup de compétitions internationales, toujours du mouvement chez les coachs en NBA, les finales et bien plus encore. Bonne nouvelle pour le basket français, les Bleuets se sont qualifiés en demi-finale de la Coupe du Monde U19. Nos jeunes ont réalisé un excellent match face à la Lituanie, un féroce adversaire qui les a conduits jusqu'en prolongation. La rencontre s'est terminée sur le score de 84 à 79 en faveur de la France. À l'honneur ce jour-là, le meneur Mathieu Strazol qui termine meilleur marqueur du match avec 23 points mais aussi 5 passes. Surtout, sous la lumière des projecteurs, le très observé Victor Wembanyama, auteur d'une performance à 20 points, 6 rebonds et 8 contres. L'intérieur de 17 ans s'est parfaitement illustré dans le maillot des Bleus et a impressionné l'ensemble des spectateurs. Jonathan Givony, expert de la draft pour ESPN et reconnu comme l'un des meilleurs dans son domaine, a décrit Wembanyama comme peut-être le prospect le plus talentueux qu'il ait jamais scouté et il en fait en tout cas son actuel favori pour le premier choix de la draft 2023. Les Bleus affronteront donc la Serbie samedi à 20h pour tenter de décrocher une place en finale de cette Coupe du Monde U19. Pour rester sur le plan international, un point sur le tournoi de qualification olympique dont nous vous parlions la semaine dernière. Les 4 vainqueurs issus des 4 tournois sont la Slovénie, l'Allemagne, l'Italie et la République tchèque qui décrochent donc leur billet pour les Jeux de Tokyo. Par la même occasion, 4 MVP, un par tournoi, ont été désignés et on compte parmi eux 3 joueurs NBA. Voici les 4, le Slovène Luka Doncic, l'Allemand Moritz Wagner, le Tchèque Thomas Satoranski et l'Italien Achille Polonara. L'un d'eux en particulier a brillé lors de la finale de son tournoi. Luka Doncic a dominé la rencontre avec un triple-double à 31 points, 13 passes et 11 rebonds pour venir à bout de la Lituanie 96 à 85. Grâce à leur prodige, la Slovénie disputera les premiers Jeux Olympiques de son histoire depuis son indépendance en 1991. Dans le même thème, deux joueurs NBA auront l'honneur de représenter leur pays en tant que porte-drapeau cette année, Rui Hachimura avec le Japon et Patty Mills avec l'Australie. Côté français, grande nouvelle, la fédération a officialisé la liste de 12 joueurs qui se rendront à Tokyo. À la mène, Thomas Hurtel, Andrew Albici et Frank Liquidina. À l'arrière, Evan Fournier et Nando De Colo. À l'aile, Nicolas Batum et Timothée Luwawu-Cabarrot. Au poste 4, Gershon Yabusele et Petr Korneli. Et enfin, au poste de pivot, Rudy Gobert, Vincent Poirier et Mustapha Foul. Une belle liste qui peut espérer des résultats cet été. Malheureusement, tout n'est pas rose dans l'actualité olympique cette semaine. Le Japon a annoncé qu'il n'y aurait pas de spectateurs aux Jeux Olympiques cet été, alors que la ville de Tokyo est repassée en état d'urgence sanitaire. Les Jeux de basket se joueront donc à huis clos, dans un contexte sensiblement similaire à celui de la bulle de la NBA l'année dernière. Outre-Atlantique, la NBA ne s'arrête jamais. En cette période où beaucoup de places sont à prendre, il y a encore beaucoup d'actualités pour les coachs américains et j'essaierai d'être le plus concis possible. La principale nouvelle, c'est la prolongation de Nate McMillan, qui restera le coach des Hawks d'Atlanta la saison prochaine. C'était une signature prévisible et attendue, compte tenu des résultats du coach. Son bilan de 27 victoires pour 11 défaites avec les Hawks en fin de saison après avoir remplacé Lloyd Pierce et la superbe campagne de playoffs de son groupe ont logiquement convaincu le front office de la franchise. Son nouveau contrat s'étend sur 4 ans, signe de la confiance que place la direction de l'équipe en son entraîneur. Dans la baie de San Francisco, l'ancien coach des Nets, Kenny Atkinson, rejoint Steve Kerr en tant que principal assistant. Il prend plus ou moins la place de Jaron Collins, parti récemment à la recherche d'une nouvelle opportunité et aura certainement beaucoup à apporter au niveau du développement des jeunes. De leur côté, les Blazers s'activent pour constituer le staff de leur nouveau coach, Chauncey Billups. La principale arrivée, c'est celle de Scott Brooks, qui sera son assistant numéro 1 après avoir passé les 13 dernières années en tant que coach en chef du Thunder et des Wizards. Il est rejoint par Roy Rogers, assistant des Clippers, qui viendra épauler Chauncey Billups sur le plan défensif, puisque c'est sa grande spécialité. David Vanterpool, assistant d'expérience, a lui signé avec les Nets et rejoint l'impressionnant coaching staff de Brooklyn. Pendant ce temps, Damon Stoudamire, ancien joueur NBA et coach des Pacific Tigers, est placé sous les ordres d'Ime Udoka à Boston. Pour les équipes qui n'ont pas encore embauché d'entraîneur, on se rapproche d'une signature. À Orlando, c'est Jamal Mosley, assistant coach des Mavericks, qui est maintenant le grand favori pour le poste de coach en chef. Wes Unseld Jr. reste vraisemblablement une option pour le Magic également. Il est aussi attendu du côté de Washington, où Jamal Mosley fait aussi partie des finalistes avec les assistants des Bucks David Arm et Charles Oli, ainsi que l'assistant des Pacers, Ronald Norred. Aux Pelicans, ce sont les noms de Charles Lee et Willie Green, assistants des Suns, qui circulent pour le moment. Dans les trois franchises, de nouveaux entretiens sont prévus cette semaine. Impossible de parler actualité sans parler des finales NBA qui se déroulent en ce moment entre les Bucks et les Suns. Giannis Antetokounmpo est bien de retour et il l'a fait comprendre à Phoenix dans un deuxième match à 42 points, 12 rebonds et 4 passes décisives. On le sentait limité lors du premier match des finales, mais sa blessure ne sera apparemment pas un problème pour les Bucks. Ce qui pourrait être un problème en revanche, c'est l'excellent niveau de jeu de leurs adversaires, puisque les Suns sont parfaitement entrés dans ces finales avec 2 victoires à domicile. Chris Paul et Devin Booker, comme souvent, s'imposent en véritables patrons. Sur le premier match, ils cumulent 59 points et 15 passes. Sur le deuxième, 54 points et 14 passes. Ils sont bien accompagnés par leur collectif, notamment un DeAndre Ayton à 22 points et 19 rebonds, avec une efficacité redoutable dans le Game 1. Le jeune pivot rejoint Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar et Will Chamberlain parmi les rares joueurs à avoir réussi une performance à au moins 20 points, 15 rebonds et 80% au tir en finale NBA. Dans le deuxième match, c'est Mikal Bridges qui s'est montré sous son meilleur jour avec 27 points et 7 rebonds. Les Bucks sont donc menés 2-0 et une réaction est attendue de la part de Milwaukee, notamment du côté de Chris Middleton et Jrue Holiday, plutôt absents dans le Game 2. Malheureusement, comme trop souvent cette année, un point blessure s'impose. D'abord pour Dario Saric, qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et qui manquera la fin des finales. En tant que principal remplaçant de DeAndre Ayton, c'est une perte considérable pour Phoenix. L'équipe a eu la même frayeur avec Torrey Craig, blessé dans le deuxième match, mais heureusement, l'IRM sur son genou n'a révélé aucun dommage structurel et il pourrait revenir d'un jour à l'autre. Niveau audience, le premier match de ces finales entre les Suns et les Bucks, de petit marché, a enregistré 8,56 millions de téléspectateurs sur ABC. Cela représente une hausse de 13% par rapport au Game 1 des précédentes finales entre les Lakers et le Heat. Les chiffres sont en hausse, mais le contexte de la précédente saison était très particulier avec la bulle et un timing compliqué qui a mis le basket en concurrence avec le football américain et le baseball. En se rapportant aux chiffres de 2019, il s'agit tout de même d'un résultat assez décevant puisque le Game 1 entre les Raptors et les Warriors avait fait 13,51 millions de téléspectateurs contre 17,67 millions en 2018. Comme chaque semaine, pour clôturer l'émission, un point plus rapide sur les actus restantes. Après 13 saisons en NBA, le français Yann Mahimi a annoncé sa retraite cette semaine sur le plateau de beIN Sports. À 34 ans, il se retire en tant que champion NBA avec un titre glané à Dallas après avoir cumulé 27 minutes dans les finales face aux Heat. Toutes nos félicitations pour sa longue carrière et on lui souhaite une bonne continuation. Comme chaque année avant le début des finales, le commissionneur de la NBA, Adam Silver, a tenu une conférence de presse pour évoquer différents sujets. Ce qui en ressort, d'abord, il pense que le Play-In Tournament sera de retour la saison prochaine, ce qui sera, bien entendu, soumis au vote des équipes et du syndicat des joueurs cet été. Ensuite, Silver a nié l'éventualité d'une expansion à court terme qui était évoquée depuis l'arrêt de la compétition l'année dernière. Le commissionneur affirme qu'une expansion est un processus de plusieurs années et qu'elle ne peut pas être perçue comme un moyen de collecter rapidement des fonds pour compenser les pertes de la Ligue. Les fans des Supersonics seront certainement déçus par cette annonce, mais la possibilité d'une expansion à plus long terme est certainement toujours sur la table. Insolite, de passage à Paris pour la Fashion Week, James Harden a été interpellé par la police française Avenue Montaigne en compagnie du rappeur Lil Baby. La police aurait trouvé une vingtaine de grammes de cannabis dans leur voiture, mais James Harden a rapidement été mis hors de cause et n'a pas eu besoin de se rendre au commissariat, contrairement à son ami. Jalen Lewis, jeune prospect très convoité, a signé un contrat de plus d'$1 million dans la nouvelle ligue Overtime Elite, ayant pour but de concurrencer le circuit universitaire. À 16 ans, il devient ainsi le plus jeune joueur de basket professionnel de l'histoire des États-Unis, d'après The Athletic. Le lycéen intéressait également de prestigieux programmes universitaires, parmi lesquels Kentucky, Duke et UCLA, auxquels il a préféré cette nouvelle alternative qui doit encore faire ses preuves. Après une saison et demie en NBA et un court passage en G-League, le français Elie Okobo signe à l'ASVEL. La semaine dernière, dans une interview pour l'analyste, il admettait ne pas encore être revenu à 100% de sa blessure à la cheville à laquelle il a été opéré en mars. On attend des nouvelles et des bonnes d'Okobo à Lyon-Villeurbanne. Mouvement inverse, la pépite française Hugo Besson part pour la Nouvelle-Zélande. Élu meilleur jeune de Pro B cette saison avec 19 points, 4 rebonds et 3 passes, il a décidé de faire une croix sur la draft NBA et de s'engager avec les Breakers d'Auckland, notamment en raison d'une blessure à la cheville qui l'a empêché de faire les workouts d'après B-Basket. en NBA, certains joueurs ont également décidé de s'exporter à l'international la saison prochaine et de rentrer dans leur pays natal, et parmi eux, Matthew Dellavedova, qui part pour le Melbourne United en Australie, et l'Italien Niccolò Melli, qui signe son retour à Milan. Cette semaine, notre coup de cœur hebdomadaire n'est pas un livre, mais un podcast. Il s'agit de Victoire, le nouveau podcast de David Lacoste et du média Grounds, qui s'intéresse aux engagements des sportifs et qui a commencé fort avec un premier épisode en compagnie de Minia Touré. 45 minutes captivantes et le lien est dans la description de cette émission. Merci à vous pour votre écoute en espérant que ce second épisode vous aura plu. Je vous invite à venir parler actu avec nous sur Twitter et Instagram @l'analystefr et si le cœur vous en dit, de mettre 5 étoiles à l'émission sur Apple Podcast. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de bons matchs et plein de bonnes choses.